Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose d'aller voir ce qui se passe dans un des lieux majeurs de la ville de Montpellier, l'université Paul Valéry. Alors, quelques chiffres pour en montrer la taille, 23 000 étudiants, dont 20% de 137 nationalités différentes, 774 enseignants et enseignants-chercheurs, 1335 intervenants extérieurs, 650 membres du personnel et enfin 5 sites dont un à Béziers. Arrêtons les chiffres, l'important est de voir ce qui s'y fait, ce qui bouge, quels sont les enjeux auxquels doit faire face. Pour le savoir, j'ai invité celle qui peut en parler le mieux, en toute connaissance de cause et en grande responsabilité, sa présidente Anne Freys. Madame, merci d'être venue au micro de Divergence. Alors, vous avez fait vos études au lycée Joffre, puis en lettres classiques à l'université Paul Valéry. Après avoir été professeur de l'enseignement secondaire, notamment au Havre, vous avez rejoint l'université Paul Valéry comme maître de conférence, puis comme professeur. Vous êtes une latiniste. Pas étonnant que pour devise de votre université, vous ayez choisi « Semper dissimulis », ce qui signifie « toujours différente », tout un programme et pas des plus conservateurs. Vous avez été présidente de 2008 à 2016, puis à nouveau réélue en 2020 et en 2024, donc pour achever votre mandat en 2028. Qu'est-ce qui vous a conduite à choisir à plusieurs reprises cet engagement et qui vous a conduit à solliciter cette fonction, madame ?
Mais je vous dirais que ça n'a pas été un choix ni une sollicitation de ma part. On est venu me chercher.
Ah, vous deviez avoir, aux yeux de vos collègues, quelques capacités à le faire, j'imagine.
Ouais. Oh, je pense que ça avait commencé déjà lorsque j'avais été élue à la direction de l'UFR1, c'est-à-dire à l'équivalent, c'est doyenne de faculté.
Hein, l'UFR1. Voilà. 5, 6, 7, je ne sais plus, là.
Alors, c'est la une, c'était une. Celle des lettres, lettres
A.
L'UFR
un peu historique.
Oui, c'était puis celle où il y avait le plus grand nombre d'étudiants, effectivement.
D'accord. Donc, ça, c'est le premier poste de responsabilité, puis après, vous avez...
Voilà, donc j'ai fait 6 ans de moyenne de faculté, et voilà.
Et vous attelez à cette tâche dont nous allons bien sûr parler. Alors, vous le savez, bon, on l'a évoqué quand on a préparé l'émission, avant que vous nous parliez de l'université Paul Valéry, racontez-nous d'abord votre Montpellier, à votre tour, d'apporter votre part au portrait de notre ville, brossée collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Alors, quels sont le lieu ou les lieux d'ici que vous aimez particulièrement, connus ou pas, et que vous recommandez aux amis de passage ?
Ah, je suppose très classique. Ce sont les vieilles rues, médiévales de Montpellier. Parce que je suis natif de Montpellier et j'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence au pied de Sainte-Anne, rue Terral, entre l'église Sainte-Anne et le boulevard du Jeu de Paume.
Donc dans le cœur de ville. Oui.
Voilà, en cœur de l'Écusson. Et mon père, qui était un amoureux de sa ville, nous avait toujours un raccourci à nous faire prendre quand on circulait à Montpellier, et je n'ai jamais passé autant de temps dans les raccourcis, parce que les raccourcis, c'était pousser la porte des hôtels, admirer les escaliers, et voilà, je pense que c'était un raccourci vers la beauté et l'histoire.
Et voilà, qui vous a marqué, voilà, donc qui continue à vous inspirer
beaucoup marqué,
peut-être.
Voilà, et qui fait que j'ai beaucoup d'attirance pour ces rues de Montpellier.
Alors, deuxième question, là, on voit plus large. Donc, vous êtes né à Montpellier, vous l'avez dit, que pensez-vous des profondes mutations de tous ordres, urbanistiques, démographiques, sociales et autres, que la ville a connues depuis 15 ou 20 ans? Quel est votre point de vue, je dirais, d'habitante ou de citoyenne?
Écoutez, je pense que Montpellier a su vraiment prendre le tournant, en particulier avec Georges Frêche, hein, qui a métamorphosé cette ville-là, et que ce sont de très belles transformations. Et et qu'on est dans une dynamique sur beaucoup de domaines qui sont très positifs. Voilà.
Vous n'êtes pas de ceux et celles qui sont un peu réticents et qui regrettent, bon, dans une vision peut-être seulement patrimoniale, de ce qu'a été Montpellier autrefois. Vous faites la part des choses.
Non, à la fois, j'aime beaucoup, effectivement, le centre-ville de Montpellier, mais Montpellier est aussi une ville moderne et qui ne peut pas rester figée dans le temps, bien sûr.
Bien sûr. Alors maintenant, parlons de Polva, là, comme disent, vous le savez, bon, c'est familier, les étudiants et peut-être d'autres. Alors, le premier sujet qui s'impose, Madame la Présidente, c'est le point saillant. C'était le point saillant de votre discours aux vœux il y a quelques jours. Et surtout, il était l'objet d'un article paru hier dans le journal Le Monde qui révèle que vous avez envoyé un courrier au président de la République, une alerte très vigoureuse, sans détour, sur la situation financière de votre université. Vous écrivez notamment « Depuis plus de 10 ans, nous sommes en surchauffe, en travail forcé, en déséquilibre permanent, jamais sûr d'arriver à remplir nos missions, faute de bras. » Alors, pourquoi, première question, avez-vous décidé de vous adresser à Emmanuel Macron ?
Parce que nous sommes devant un mur, c'est-à-dire que la réponse du rectorat et du ministère à des demandes de création de postes qui sont indispensables pour mon université,
vous allez nous le dire,
c'est non. Non, quoi qu'on dise, c'est-à-dire que maintenant il est reconnu que nous sommes sous-dotés et sous-encadrés.
Par rapport à d'autres universités comparables ?
Voilà, tout à fait. Et autrefois on nous disait « mais c'est parce que vous gérez mal ». Oui. Nous avons reçu des inspecteurs qui sont venus voir
de plus près
comment nous gérions cette université pour nous donner des conseils. Ils ont rendu le même diagnostic que nous. Donc cette sous-dotation, sous-encadrement, c'est reconnu, mais maintenant ça rentre dans une sorte de normalité. Oui, vous êtes sous-doté, sous-encadré. Très bien, ben, continuez comme ça.
Donc c'est tout un système que vous mettez en cause. Système installé de longue date, et comme on lit dans ton courrier, qui est secret, qui est caché, qui n'est pas expliqué, et que les décisions qui sont prises année après année, de fait, ne sont pas expliquées ni justifiées.
Exactement. En fait, les dotations pour charges de service public, qui est le principe même du service public, ces dotations, elles étaient réparties selon un modèle d'allocation.
Oui.
Ce modèle s'est arrêté il y a 15 ans. Il y avait une intention de renouveler ce modèle. Et en fait, ce modèle n'a jamais été renouvelé. C'est-à-dire que la situation a été figée dans une photographie de cette époque-là. Et les changements, ensuite, se font un peu plus, un peu moins, sans qu'il y ait de règles et de normes. Et nous sommes le seul pays d'Europe à ne pas avoir un modèle d'allocation clair, transparent et connu de tous pour distribuer de l'argent public.
De manière équitable.
Alors, de manière équitable, mais déjà de manière connue. Si vous voulez, un modèle, on peut le contester, on peut argumenter, voir quels sont les biais, essayer de rectifier ces biais. Mais quand vous n'avez pas de modèle, vous ne pouvez rien faire.
Vous savez, ce sont des mots à moi, parce que la tête dans le sac, en quelque sorte, pour piloter cette université, on peut le dire
d'une
manière réduite comme ça.
Exactement. Le ministre nous répond non, il n'y aura pas de nouveau modèle. Par contre, nous allons aider les 10 universités les plus en difficulté. Alors d'abord, le mot « aider », quand on parle des relations entre l'État et l'université, voilà, l'État et l'université, cela me paraît des relations qui sont déjà faussées au départ. Nous sommes un service public qui a des charges pour service public et il y a une dotation pour charges de service public. Moi, je voudrais qu'on m'explique, si on est sorti de ce système-là, dans quel système nous sommes. Parce que le ministre nous répond, il y a 10 universités qu'on va aider. Mais
vous êtes dans la liste. Il y a une liste qui a été produite par le ministère.
C'est bien le problème. Personne ne sait quelles sont ces 10 universités. Personne ne sait comment elles seront aidées. Personne ne sait sur quels critères elles sont déclarées plus en difficulté que les autres. Personne ne sait comment et sur quels critères elles vont être aidées. Et quand on discute avec le ministère, avec le rectorat, en fait, on cherche à nous persuader que nous sommes la 11e université, c'est-à-dire la première de celles qui ne seront pas aidées.
Et ça, c'est une information officielle, avérée, ou c'est, si ce n'est un bruit de couloir
Non, ce n'est pas un bruit de couloir, puisque, si vous voulez, selon les critères financiers du ministère, il y a trois critères qui permettent de dire si une université est en bonne santé financière. Il y avait déjà l'an dernier 35 universités qui étaient dans ce cas, toutes persuadées bien sûr qu'elles étaient dans les 10 du ministère. Nous parlons quand même un petit peu entre présidents, et donc quand nous parlons, moi on m'explique qu'on a été aidé plusieurs années, donc nous sommes sortis de ces 10 universités, que par exemple, alors je les cite, j'espère que ça ne l'est, que Rennes 2 ou Nîmes sont des universités plus en difficulté que nous, mais quand je parle avec mon collègue de Rennes 2, il m'explique que lui, on lui dit que Paris, je crois que c'est Sorbonne Nouvelle, je ne garantirai pas, et Montpellier 3 sont des universités bien plus en difficulté que Rennes 2. Si on va voir Lyon 2, on essaye de persuader la présidente qu'elle n'est pas du tout dans ces universités-là. Et bon, je ne sais pas ce qu'on dit à mon collègue de Nîmes, mais voilà.
Il y a un système qui est peut-être rationnel, mais cette rationalité n'est pas démontrée. Alors, je reviens en arrière. Le système a été gelé en quelque sorte il y a 15 ans. Entre-temps, le nombre d'étudiants a augmenté sensiblement.
Tout à fait. C'est d'ailleurs un des critères qu'on prend.
Vous avez une idée en tête du nombre d'étudiants par rapport aux 23 000 actuels?
C'est très simple. Et d'ailleurs, de toute façon, le ministère nous renvoie à ce chiffre-là. Il nous explique qu'on est formaté, ce qui est vrai, en termes d'encadrement aussi, pour 17 000 étudiants. Et effectivement, l'université a eu à un moment entre 16 et 17 000 étudiants, tout à fait. Sauf quand on me dit cela, ça ne m'apporte pas de solution, parce que qu'est-ce que je fais des 6 000 que j'ai en plus?
Alors, c'était ma question qui vient ensuite, me semble-t-il, c'est le système que vous décrivez, hein, ce blocage, quelles en sont les conséquences? Bon, pour les étudiants, on va en parler, et aussi pour les personnels, notamment en termes d'effectifs qui puissent être mis à disposition dans des conditions correctes pour faire face aux besoins.
Eh bien, une dotation insuffisante, ça crée un déficit structurel. C'est-à-dire que année après année, nous avons des charges qui sont plus élevées que l'argent que nous récoltons, soit par la dotation de l'État, soit par ressources propres. Donc, à partir du moment où il y a ce déficit année après année, on est obligé de prendre dans notre fonds de roulement, la réserve de l'établissement, de quoi compenser le déficit annuel, eh bien, c'est quelque chose qui va se reproduire. Donc, ce qu'on nous dit de faire, puisqu'on ne nous propose pas une dotation supérieure, on nous dit, eh bien, il faut fermer des formations, il faut réduire vos capacités d'accueil, autant de choses, bien sûr, qui vont nuire à nos étudiants ou à nos futurs étudiants.
Donc, réduire la fonction d'enseignement, de formation.
Voilà.
En gros, adapter le public aux moyens.
Exactement.
Plutôt que le phénomène inverse qu'on pouvait espérer. Quoi.
Tout à fait. Et donc, à partir de là, si on ne rentre pas dans cette logique-là, et ma communauté ne rentre pas dans cette logique-là, parce que, vous savez, ce type de métier d'enseignant-chercheur, on le fait par passion, on ne le fait pas pour d'autres raisons. Et donc, ça ne nous est pas possible de faire porter cela sur nos étudiants. Et à partir de là, bien forcément, nous nous mettons nous-mêmes dans une situation de surtravail.
Vous le dites dans votre lettre.
C'est exactement ce que j'explique dans la lettre. Ouais. Si nous ne voulons pas fermer de formation, si nous ne voulons pas accueillir, si nous voulons continuer à accueillir nos étudiants, eh bien, forcément, nous allons nous retrouver avec trop d'heures par rapport au nombre que nous sommes, puisque nous sommes en sous-encadrement, trop d'heures à assurer. Donc on a recours bien sûr à des vacataires, mais il arrive un moment où le vivier est épuisé et forcément cela retombe sur les enseignants titulaires qui font
du leurre pour le coup.
Voilà, et qui font parfois jusqu'à plus du double de leur service.
Alors, cet aspect du personnel, de ce problème de relations humaines, comme on dit, ou de ressources humaines, vous l'évoquez dans votre courrier, y compris en mettant le doigt sur des signes alarmants de difficultés touchant la santé des personnes, voire à ce qu'on appelle des phénomènes de burn-out. Vous pouvez nous en dire un mot ?
Ben, vous savez, on est dans cette situation de surchauffe, hein, comme je dis, depuis plus de 10 ans. On vient de voter notre 6e budget en déficit. Forcément, cela a des conséquences. Yeah. Il n'est pas possible qu'il n'y ait pas de conséquences sur la santé des personnels. C'est ce que j'évoque en évoquant des cas qui sont douloureux pour la communauté, c'est-à-dire des morts, des suicides, parce que... C'est un peu facile de dire oui, ben vous êtes en sous-dotation, en sous-encadrement finalement.
C'est une approche purement comptable.
C'est une approche purement comptable. Et effectivement, moi, j'en ai vraiment assez de que mon université soit vue entièrement à chaque fois comme un budget, une université déficitaire, et que la seule approche qu'on me propose, c'est celle-là. Vous avez ce budget. Et avec cela, vous faites.
Débrouillez-vous.
Moi, je souhaite des réponses. Je veux savoir pourquoi mon université reçoit moins d'argent pour un étudiant qui est dans la même filière d'histoire, de lettres ou de toutes les disciplines qu'on enseigne, que n'en reçoit une autre université pour le même étudiant.
De quel ordre cette différence-là pour une formation identique ?
Elle peut être quasiment du simple au double.
Ah, d'accord.
Voilà. Et alors, on me dit, oui, mais c'est parce qu'on prend en compte d'autres aspects. Ça peut être la recherche, ça peut être les lieux. Mais oui, mais ces éléments-là, nous, on ne les a pas. On ne les connaît pas. Voilà. On en revient toujours à il nous faut un modèle clair. Il nous faut savoir comment cet argent est distribué. Et c'est une question de justice sociale.
Oui, le mot voilà. Justice, il y est dans votre...
Oui, et de justice sociale, parce que c'est les étudiants les plus faibles, ceux qui sont souvent les plus pauvres, ceux qui sont en province, ceux qui vont être pénalisés les premiers. Et il y a une sorte de contradiction entre ce qu'on nous demande. On nous demande, par exemple, de développer des antennes, d'essayer d'apporter l'enseignement supérieur dans des coins plus reculés, de ne pas rester dans les métropoles. Mais il faut savoir que cela, c'est beaucoup plus cher. Nous avons une annexe à Béziers, qui est déjà une très grande annexe, qui est la seule de l'université. Et forcément... Toutes les formations que nous y proposons, parce qu'il y a moins d'étudiants, coûtent plus cher que la même formation assurée à Montpellier. Donc c'est à la fois contradictoire de nous dire il faut toujours rechercher que ce soit moins cher, et on vous donne de moins en moins, et en même temps nous inviter à développer un enseignement qui soit réparti dans les territoires. Vous voyez, on meurt aussi de ça, d'éléments qui sont totalement contradictoires. On me dit maintenant, réduisez votre nombre d'étudiants, mais moi je rappelle quand même que peut-être pour faire passer Parcoursup ou mon master, enfin les plateformes d'accès à l'université, eh bien on a demandé, alors c'était du temps de mon prédécesseur, hein, dans la période où j'étais pas présidente, on a demandé à mon université de créer des places en première année, de créer des filières de master, créer des masters. On nous a d'ailleurs donné, d'ouvrir les portes. On nous a même donné le financement pour ces formations. Et 2 ans après, on nous a enlevé le financement. Et maintenant, on nous demande de réduire. Donc là, il y a des stratégies qui vont dans tous les sens, qui sont incompréhensibles.
Et insupportable,
bien sûr.
Très bien. Alors, je pense qu'on a bien compris l'ampleur du problème, l'acuité qu'il a, et on va aborder de manière plus rapide et sur des sujets plus légers, pour le coup positifs. Le premier, bon, l'université Paul-Valéry est dans une phase de mutation avec l'EPE, l'établissement public expérimental. De quoi s'agit-il ?
Alors, vous voyez, c'est ce qui me fait aussi très mal au cœur que mon université soit vue uniquement comme un problème ou comme un déficit, parce qu'il y a énormément de très belles choses qui se réalisent dans cette université. Alors l'EPE, je vais vous dire, c'est une sorte de, c'est la structuration de l'établissement pour l'élargir à des partenaires qui sont déjà les nôtres, hein, qui sont les écoles d'art, qui sont l'école d'architecture, qui sont aussi des écoles du domaine social, de faire ensemble, de construire ensemble un établissement sur les sujets, sur les thématiques, sur les disciplines qui sont les nôtres.
En fait, bien sûr, l'université est un peu en pivot ou en élément central
avec,
de ce rassemblement.
Avec l'université au cœur, effectivement, du dispositif, mais avec quelque chose qui est extrêmement intéressant pour les écoles concernées et qui change justement de ce que pouvait être la fusion ou les communes, hein, qui étaient d'autres formes de rassemblement. C'est-à-dire qu'elle reste autonome, elle garde une indépendance, que ce soit
Ça ne change pas le statut de l'université.
Voilà. C'est ça. Enfin, si c'est l'université qui se transforme en EPE, puis ensuite en grand établissement, mais les écoles, elles, gardent leur statut à l'intérieur de ce grand établissement.
Très bien.
Et c'est un système très souple.
De la même manière, je vous prie de faire bref. Il y a une autre opération ambitieuse et me semble-t-il novatrice, c'est Miranda. Alors, je développe en anglais Montpellier Institute for Research, Creation, Art, Culture and Heritage in a New Digital Age. Pardon pour mon anglais. De quoi là, s'agit-il là aussi? Et quel est, je dirais, cet objectif nouveau qui vous est donné?
Alors ça ne vous étonnera pas que je préfère le latin. Miranda en latin, ça veut dire les choses qu'il faut admirer, qui sont admirables.
Alors voilà. Dites-nous, en quoi pourront-elles être admirables?
Alors, Miranda, cela va dans le même sens que l'EPE ou le grand établissement, ça a une grande en tout cas cohérence. C'est un projet, un PIA que nous avons gagné, donc c'est un projet de recherche mais également
de
formation.
Donc il y avait une sélection qui s'est opérée.
Tout à fait,
donc,
bien
sûr.
Donc
c'est le projet Paul Valéry qui a été retenu parmi d'autres.
Alors il y a eu trois tours et donc on a obtenu ce projet qui est un gros projet, hein, puisque c'est un financement de plus de 12 millions et la région nous accompagne aussi et peut aller jusqu'à doubler cette somme. Donc c'est un gros projet de recherche sur des thématiques qui sont culture, patrimoine et surtout ce qu'on appelle la recherche-création, c'est-à-dire comment à la fois le domaine académique dans les arts peut être aussi lié à une réflexion sur la propre création des artistes. Voilà. Et ce domaine-là est un domaine qui est au cœur de ce qui est Paul Valéry. Et il y a aussi les ICC dans Miranda, hein, tout ce qui est...
Les industries culturelles et créatives,
voilà,
qui sont
tout
très riches
à Montpellier.
Donc c'est pour 10 ans, c'est au début, les premiers projets se mettent en place. Bon, vous aurez l'occasion d'en reparler. Alors je change un peu de sujet pour évoquer, bon, au moins pour justifier le titre de l'émission. Comment l'université Paul Valéry est-elle tournée vers la ville et pas repliée, quels sont les différents liens, les différentes relations qui, sous diverses formes, rassemblent l'université avec les différents volets de ce qu'est Montpellier?
Alors, vous savez, c'est vrai qu'il y a un peu un préjugé qui expliquait que les philosophes se sont réfugiés dans leur tour d'ivoire, loin de la réalité, ou que les artistes sont déconnectés. Je crois que c'est exactement le contraire. Une université de lettres et sciences humaines ne peut qu'être au cœur d'une ville. Une ville qui, d'ailleurs, revendique sa culture, son patrimoine, qui se dit ville de culture. Voilà. Et de toute façon, nous avons participé à la candidature de Montpellier.
Capitale européenne de l'Europe.
De la culture, voilà. Et forcément, nous sommes au cœur de cette réflexion, mais aussi sur tout ce qui est l'aspect social, l'innovation en matière de gestion des villes. Nos étudiants, par exemple, de master, ont l'habitude de travailler, par exemple, avec les collectivités.
Oui, sur les questions liées à l'aménagement de territoire, à l'urbanisme.
Par exemple, il y a cela, mais aussi sur des éléments qui peuvent être plus culturels aussi des réflexions sociales. Nous avons des observatoires, nous avons de ce côté-là, nous avons un gros travail qui se fait avec la mairie et la métropole sur l'usage justement des recherches en sciences humaines pour analyser, développer des réalités de la ville et influencer les politiques, publiques, les décisions publiques, bien sûr, tout à fait. Et c'est un rôle auquel l'université tient, bien sûr.
Alors, on peut le citer au passage, s'il y a un lien physique qui a été mis en place en décembre dernier, c'est la ligne 5 du tram avec une station à l'entrée de l'université qui est aussi, j'imagine, pour vous et pour ceux qui y travaillent, un apport conséquent, hein, d'une manière visible, je dirais, matérielle, d'assurer la connexion entre la ville et l'université.
Cela dit, ça s'est fait tout ça dans le cadre de l'opération Campus, hein, qu'a gagné aussi le site de Montpellier, les différentes universités de Montpellier. Et c'est très emblématique, effectivement, de ce lien avec la ville. Par exemple, l'Atrium, la nouvelle bibliothèque de l'université, sa position même est caractéristique d'un changement de vision de ce que peut être une bibliothèque universitaire. Autrefois, dans le campus qui a été construit dans les années 67-68, la bibliothèque était au cœur du campus, mais donc avec le reste autour, donc refermé à l'intérieur de l'université.
Et là, c'est le contraire, elle est en vitrine.
Et là, exactement. Là, elle a été mise vraiment en vitrine comme un lien avec l'université, comme d'ailleurs le site Saint-Charles, celui de la recherche, qui est au cœur de la cité, et comme sera aussi le site Boutonnet, l'ex-école de chimie, hein, que l'université récupère et qui, après travaux, sera consacrée à tout ce qui est l'interuniversitaire et aussi, justement, l'ouverture sur la société.
Alors, on poursuit, puisque le temps s'écoule. Quand on parle autour de soi, ça m'est arrivé de l'Université de Port-Valéry, on entend souvent cette réaction de surprise. « Ah bon, il y a de la recherche, vous l'avez dit brièvement. De quoi s'agit-il ? Donnez-nous quelques précisions. » Et après, il y aura ma dernière question qui suivra. Alors, qu'en est-il de la recherche ? On pense science,
oui.
Médecine, la recherche, on ne pense pas sciences humaines.
Oui, eh bien, les sciences humaines sont des sciences. Il y a de la recherche et des recherches extrêmement extrêmement passionnante, et on a de toute façon, le site Saint-Charles est un site dans lequel nous avons nos laboratoires de recherche.
Alors, hein. Je vous coupe, le site Saint-Charles, c'est là où était l'hôpital Saint-Charles.
Tout à
c'est
fait.
Derrière la place Albert Ier, avec une station de tram à côté,
oui.
Et un certain nombre de locaux, y compris ouverts de l'extérieur. J'ai participé plusieurs fois à des rendez-vous, des conférences dans le petit amphi. Donc ça aussi, c'est une forme de tisser des liens avec la ville
Bien
et
sûr.
Ses différents acteurs.
Bien sûr, tout à fait. Les recherches en sciences humaines sont des recherches qui sont ouvertes sur la vie, ouvertes sur la cité, et qui sont très intéressantes à découvrir, mais aussi avec des techniques très précises. Donc quand il y a la fête de la science, nous essayons de faire découvrir justement à la population ce que cela veut dire, travailler en recherche en sciences humaines, dans ces domaines-là. Et bien sûr, il y a de la recherche.
Alors, restons pour finir notre échange dans ce champ-là. Aux États-Unis et dans une moindre mesure en France, la recherche, la science sont l'objet d'attaques plus ou moins violentes. Comment analysez-vous ce phénomène et comment, selon vous, faut-il le combattre ?
Je pense que il y a une attaque contre la science, contre aussi d'ailleurs toute forme
de savoir,
de savoir ou d'expérience. C'est-à-dire qu'il y a une façon de considérer que toute parole est équivalente. On le voit par exemple chez les influenceurs. Non, pour moi, toute parole n'est pas équivalente. Il y a des paroles, par exemple, que je ne dirais pas, en tant que citoyenne, je peux avoir des opinions sur tel ou tel sujet, mais en tant que chercheur, voire en tant que présidente de l'université, j'estime avoir une parole qualifiée sur un certain nombre de domaines.
Avérée,
et voilà,
démontrée.
C'est un peu cela, et je crois que le scepticisme envers la science, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement nuisible, dont on voit tout à fait les conséquences
négatives,
voilà, mais qui laissent les démocraties dans une très grande fragilité, puisque le principe de la science, c'est de pouvoir justifier ce qu'on dit. À partir du moment où toute parole est équivalente, vous pouvez essayer de
bien
faire
sûr.
Croire à quelqu'un que la terre est
plate. C'est voilà. Forme, bien sûr. Donc j'imagine que vous-même et vos collègues sont mobilisés sur ce sujet et s'efforcent de de faire face en définitive à ces vagues de,
oui, tout à
de doutes, de scepticisme,
tout
voire de contestation frontale.
Mmh. Tout à fait, et pour en revenir au sujet dont on parlait au départ, c'est triste de voir que parfois notre État ou notre ministre attaque lui-même des universités qu'il devrait défendre.
Alors on restera, madame, sur cette manifestation d'inquiétude, mais qui rejoint, bien malgré vous, j'imagine, l'inquiétude que vous avez exprimée au début. Je vous remercie, madame la présidente.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarov.
Donc vous êtes une Montpelliéraine, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.